bonsoir et bienvenue dans cette émission. La RDC et le Rwanda ont signé vendredi 27 juin 2025 à Washington un accord de paix censé mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. L'accord est salué par plusieurs pays, mais suscite encore des critiques. Pour le président de la République française, Emmanuel Macron, cet accord est un pas en avant après des décennies de souffrance. Dans une publication sur son compte X, il parle d'une bonne nouvelle pour la région des Grands Lacs. Pour sa part, Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, qui salue également la signature de cet accord, déclare qu'une mise en œuvre effective des engagements pris est cruciale pour enfin parvenir à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères, le Qatar, de son côté, parle d'un accord important qui devrait renforcer la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, est cependant resté critique. D'après lui, en signant cet accord, le régime de Kinshasa a abandonné sa souveraineté aux mains des forces d'agression et légitimise l'occupation et les opérations d'une armée à la base des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées et du déplacement des millions de Congolais. Que pensez-vous de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda? Pourrait-il aider à restaurer la paix et la stabilité en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons en ligne Juvenal Munubo. Il est avocat et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Il est député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Bonsoir, honorable Juvenal Munubo.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Ferdinand Cambéré, il est avocat, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC Antigues. Bonsoir, maître Ferdinand Cambéré.
Bonsoir, monsieur Guy Mathé, et bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et ici au studio, nous avons Christian Moleka, il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir, Christian Moleka.
Bonsoir, Guy Mathé. Bonsoir également à tous nos auditeurs de la Radio Okapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce vendredi dernier un accord de paix à Washington sous l'égide des États-Unis. L'objectif de cet accord est de mettre fin au conflit qui sévit dans la partie est de la RDC. Cet accord a été signé par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et son homologue du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le point avec Grace Amzati.
Tout en remerciant le président américain Donald Trump pour son engagement envers ce processus de paix, Thérèse Kayikwamba souligne qu'avec cet accord, un nouveau chapitre s'ouvre. Ce chapitre qui appelle non seulement à l'engagement, mais aussi à l'espoir de le voir se matérialiser, déclare-t-elle.
En signant cet accord, nous réaffirmons une simple vérité. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité pour respecter le droit international, pour protéger le droit humain et pour protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert sont en train de regarder. Ils attendent que cet accord soit respecté.
De son côté, son homologue du Rwanda affirme que le cœur de cet accord de paix réside dans la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination conjointe en matière de sécurité entre la RDC et le Rwanda. Olivier Nduhungirehe.
Cette décision repose sur l'engagement pris ici de mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien apporté par l'État au FDLR et aux milices associées. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter les retours des réfugiés sur nos territoires respectifs avec le soutien du HCR.
La prochaine étape prévoit la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington fin juillet au cours d'un sommet.
Merci à vous, Grace Amzati. C'est une page importante qui se tourne entre la RDC et le Rwanda. Les deux pays ont signé, comme nous l'avons dit, à Washington, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est du pays sous la médiation américaine. Lors de la cérémonie, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain, est revenu sur les grandes lignes de ce texte qui engage les deux pays à mettre fin au soutien aux groupes armés dans l'est du pays.
L'accord signé inclut les respects de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement d'un mécanisme de coordination de sécurité conjointe, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que l'accès humanitaire, la réaffirmation du mandat de la MONUSCO et l'établissement d'intégration économique régionale. L'accord inclut aussi une annexe sur le fonctionnement du mécanisme de coordination de sécurité conjointe et le concept d'opération du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces et la levée des mesures de défense du Rwanda. Avec les signatures des parties aujourd'hui, l'accord entre immédiatement en vigueur.
Juvenal Mounoubo, je rappelle que vous êtes avocat cadre de l'Union sacrée de la Nation, vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé à Washington, est là. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, je salue M. Christian Moleka, tout comme Maître Cambéré, qui intervient avec moi dans cette émission. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on était dans une sorte d'enlisement du conflit. C'est-à-dire que Kinshasa n'arrivait pas à mettre fin, à neutraliser ces mouvements, le M23, tout comme le M23 ne parvenait pas à avancer. Donc on était dans une sorte de statu quo. Et pourtant, les souffrances de la population ne font que continuer. Donc il fallait trouver vite une solution. Il faut voir aussi les efforts sur le plan africain. On sait tout ce qui a été fait à Luanda. On sait ce qu'ont été les limites à Luanda. On sait que les processus ont été fusionnés et assez et SADC. On sait ce que l'Union africaine a fait à travers Faure Gnassingbé, le président du Togo. Bref, les États-Unis viennent apporter un souffle nouveau dans les efforts de pacification. Raison pour laquelle l'AFDC, par exemple, mon parti, était le premier à réagir juste après la signature de cet accord au lendemain, où nous avons salué les efforts inlassables du président Tshisekedi, la haute diplomatie, pour amener la paix, et nous avons souhaité la bonne foi et l'application intégrale de cet accord. Alors, les leçons qui se dégagent par rapport à cet accord, c'est d'abord le fait qu'il y a un élément d'externalisation du conflit. On ne peut pas considérer le conflit à l'Est comme simplement un conflit interne. C'est vrai, il y a eu les Nations Unies déjà qui ont sorti les rapports sur le groupe d'experts, les rapports de groupe d'experts, mais aussi il y a cette résolution des Nations Unies à laquelle d'ailleurs se réfère cet accord, c'est la résolution 2773. Alors, l'implication des États-Unis, la signature surtout de cet accord entre Kinshasa et Kigali, ça montre que ce n'est pas simplement un conflit interne. C'est donc un conflit interne internationalisé. Il y a un élément régional, international à tenir en compte. Autre chose, c'est que on rappelle que le Grand Lac, c'est une zone d'opportunité. Et ça, c'est déjà connu, on connaissait ça déjà à partir du pacte de Nairobi, le pacte qui crée la CIRGL, c'est qu'il y a des opportunités dans cet espace Grand Lac, mais pourvu qu'il y ait la paix et que les États se respectent mutuellement, il y a moyen de réaliser l'intégration. Et là, à partir de cet accord, on nous rappelle cette possibilité de réaliser l'intégration, de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une terre d'opportunité. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va apaiser les tensions, évidemment, entre Kinshasa et Kigali. C'est très important qu'on arrive à un dégel, à un apaisement des tensions. Et on espère que ça va suivre dans les rhétoriques aussi des parts et d'autres. Hein? Et du côté de Kigali et du côté de Kinshasa. Parce qu'il faut vraiment un dégel. Les populations n'ont pas besoin des tensions.
Juvenal Mounoubo, s'il faut revenir au contenu, n'est-ce pas, de ce texte, dans cet accord, il est prévu où on revient sur certaines questions qui n'ont jamais trouvé des solutions. C'est notamment cette question épineuse, n'est-ce pas, des neutralisations des FDLR par l'armée congolaise. Et dans la faisabilité, comment vous entrevoyez les opérations qui doivent, n'est-ce pas, aboutir à la neutralisation de ces forces négatives, quand du point de vue de beaucoup d'experts, c'est des forces qui sont devenues une nébuleuse?
Alors, la question FDLR, qui est la revendication du Rwanda, ce n'est pas une question facile. C'est une question ancienne, et le Rwanda, c'est une question actuelle. Et les deux parties d'ailleurs conviennent que c'est une question actuelle. Mais ce n'est pas une question facile. Pourquoi? Parce que le Rwanda a fait 5 ans ici, lors de la deuxième guerre, et l'objectif c'était de neutraliser les FDLR. Mais on n'est pas arrivé au bout des FDLR. Alors, il va se poser sûrement d'abord la question de savoir qu'est-ce qui va précéder entre la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises, ce qu'on appelle la levée des mesures de défense. Et tout ça, ça doit se passer dans 3 mois. Donc la première contrainte, c'est de savoir qu'est-ce qui précède. Est-ce que c'est la neutralisation des FDLR qui précède le désengagement ou la levée des mesures de défense, ou c'est plutôt les désengagements de l'armée rwandaise qui précède la neutralisation?
Il est dit que les deux choses vont se passer de façon simultanée. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains analystes pensent que cette question des neutralisations des FDLR, au lieu de faire avancer les processus, risque de bloquer ces processus.
C'est une question complexe et je crois qu'ils ont raison, ceux qui pensent comme ça, parce qu'il faut localiser les FDLR, il faut échanger les renseignements. Lorsque vous lisez les CONOPS, les plans harmonisés de neutralisation des FDLR et de levée des mesures de défense, vous verrez que c'est tout un travail qu'il faut faire. Et moi, je doute que ça se réalise dans l'espace de 3 mois. Autre chose, est-ce que ce sont les FRDC seuls qui vont neutraliser les FDLR? Est-ce que le Congo pourrait, à lui seul, prendre l'engagement de neutraliser les FDLR? C'est une question complexe. Est-ce qu'on va revenir dans les cas des opérations conjointes? Mais des opérations conjointes, on a déjà connu. Il y a eu Omojawetu, il y a eu Kimia, Kimiade. Est-ce que ça nous a permis de neutraliser les FDLR? Voilà ce qui me laisse un petit peu dubitatif. Je suis un peu réservé par rapport à ça.
Alors,
l'avancée en soi, elle est à saluer. Elle est à saluer, pourquoi? Parce qu'on était dans une sorte de marasme. Hein? Les processus ne semblaient pas évoluer vraiment. Et donc, les États-Unis sont venus nous aider à avancer. Dans le but d'abord du rapprochement Kigali-Kinshasa. C'était très important. Les volets externes du conflit. Parce que les volets internes, c'est au niveau de Doha, au Qatar. Mais par rapport à la question FDLR, laisse-moi vous dire que c'est une question complexe.
Une question complexe, comme vous le dites. Et aussi, il y a cette réaction du docteur Denis Mukwege. Je ne sais pas, vous allez réagir, n'est-ce pas? Il dit que qu'en signant cet accord, le régime de Kinshasa abandonne sa souveraineté aux mains des forces d'agression et légitimise l'occupation et les opérations d'une armée à la base des millions de morts et des centaines de milliers de femmes violées et du déplacement des millions de Congolais. Comment vous réagissez à cette... À ce point de vue,
j'ai lu la réaction du docteur Mukwege, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein. Mais c'est son point de vue, mais je ne crois pas qu'on puisse à ce stade tirer des conclusions aussi graves. Je pense qu'il faut analyser la question de manière objective. On se rend compte qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Prenons le cas de la solution militaire. Est-ce qu'on pouvait dire qu'on pouvait arriver encore à mettre fin à la rébellion en 23 à partir d'une solution militaire, à partir de Kinshasa? Voilà, là se pose la question. Et donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Et pour être réaliste, il faut considérer cet accord comme une opportunité. Mais il ne faut pas afficher un optimisme béat. Il ne faut pas penser que tout est dit. Il ne faut pas passer à la fête déjà et penser que tout est fait. Parce que déjà, la question FDLR, pour la résoudre, ce n'est pas si facile que ça. Et il reste la question des troupes rwandaises. Alors, pendant que beaucoup de Congolais pensent qu'il faut parler de retrait des troupes rwandaises, mais au niveau de l'accord, on parle de désengagement, de levée des mesures de défense. Est-ce qu'on sait le nombre de troupes rwandaises qu'il y a? Comment ça va se faire concrètement? Alors, toutes ces questions-là, ça reste à résoudre. Et puis, il y a la question des droits. Les processus de Doha, on ne sait pas vraiment comment ça évolue.
Merci.
Les délégués, même du M23, ils étaient là, et puis ils sont rentrés. Et puis on ne sait pas, on n'a pas un programme pour Doha, on ne sait pas quand est-ce que ça reprend.
Merci, Juvenal Mounoubo. Je vais vous redonner la parole. Maître Ferdinand Kambéré, avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Que pensez-vous de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda?
Merci Guy Matin. Juste aussi une occasion pour saluer les co-débatteurs, l'honorable Juvenal Mounoubo, ainsi que M. Mouleka. Et moi, je salue le courage et l'honnêteté du confrère Juvenal Mounoubo. Parce que je ne pense pas qu'avec ce triomphalisme BA qu'avait les militaires de l'IDPS pour la plupart, sinon les gens du régime, par rapport à la signature de cet accord entre guillemets de paix, mais lorsque se confrontait non seulement aux textes qui ont déjà été signés, comme les connoxes là, à partir de Luanda, et vous allez à la résolution du sommet conjoint SADC et AC. Vous prenez la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que la réaction du confrère M. Juvenal est mesurée et il est prudent que ceci est en train d'être développé par le pouvoir. Et pour moi, je pense qu'effectivement cet accord en réalité, ce n'est qu'un accord de business. On a plus mis au centre nos ressources naturelles. Je crois que l'administration Trump est tombée dans les pièges de ceux-là. Ils sont allés développer un autre narratif que le Rwanda n'a jamais développé officiellement, qui est celui de « il suffit de donner aux Rwandais des titres miniers » et peut-être se donner aussi aux Américains, au Qatar, et la paix va revenir. On a oublié l'histoire de cette guerre-là. On a mis l'éponge sur tous les efforts et sacrifices de ce peuple de l'Est, qui souffre de cette guerre des années et des années. Massacres, pillages et tout ça. C'est à cela que j'adopte, je crois, l'analyse du prix Nobel de la paix, pour qui aussi j'ai beaucoup de respect, pour que, en réalité, on a plus mis au devant de la scène l'accord de business, l'accord sur le commerce, que l'accord de paix. L'accord de paix, en réalité, il doit d'abord, se dire, c'est vrai, les parties prenantes, on doit se dire, l'accord de paix est signé entre les belligérants, les parties prenantes. Mais maintenant là, lorsque le débat qui est dans le média, juste là, le régime n'arrive pas à nous toucher pour nous dire qu'on a parlé que de paix, et les business, on pourrait toujours y revenir, mais il faut que la paix soit impréalable pour tout le monde. Et c'est à cela que nous, on se demande. Après l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, parce que pour mettre en déroute le M23 en 2013, c'était quand même le concours, non seulement de SARDC, députés, tout le monde était impliqué. La communauté internationale, il y avait une brigade d'intervention sous commandement de la MONUSCO, tout le monde était impliqué pour que ces récidives qui était remarqué chez le M23, il fallait qu'on y mette fin. Et on y a mis la fin par cette guerre-là, parce qu'il y avait l'accord de 2009 qui n'avait pas tenu. Finalement, lorsqu'en 2011, il y a ce mouvement M23, Pourquoi c'était une décision courageuse pour l'ancien président de la République de décider d'y mettre fin. Et il a réussi. Et cette histoire de Konop aujourd'hui, en réalité, Félix n'a pas hérité ça. Nous, on s'étonne qu'on revienne ici sur la question de Joseph Deler et que de Ouazalendou, que tout le monde a soutenu ici, député, PDG ou DG et tout ça, qui passait pour encourager ces jeunes volontaires de se battre. Mais aujourd'hui, que ce soit que pour les démobiliser, il faut financer l'armée ougandaise pour aller les attaquer. Nous, ça fait quand même un peu beaucoup de questionnements dans ça. Est-ce qu'on veut que la guerre se termine ou le régime veut simplement utiliser ça comme un prétexte pour traquer les membres de l'opposition comme ils sont en train de le faire? Vous avez vu l'affiche de honte qu'on a vu à la RCNC où lorsqu'on affiche les images des anciens présidents de la République, volontairement et intentionnellement, la photo du 4e président de la République, qui a fait des efforts et sacrifices pour mettre fin à cette guerre, pour que nous arrivions à organiser les élections de 2018. Tout le monde sait le processus, là, comment il était délicat. Et que, tant qu'il n'ait été besoin pour lui de dire non, je suis encore jeune, je vais me battre, je n'ai qu'à faire de cette constitution, ou que même en mettant un dauphin, je vais l'imposer par les armes, ça n'a pas été son choix. Mais vous voyez bien qu'en réalité, alors que c'est le régime qui s'est quitté, qui nous a remis dans ces histoires, des plans harmonisés, des démobilisations de ces FDLR. Parce que quand on signe la constante d'Addis Abeba, on ne parlait plus des FDLR.
Oui, maître Ferdinand.
Qu'à chaque gouvernement, il y ait des réformes.
Maître Ferdinand Cambéré. Maître Ferdinand Cambéré, est-ce que cet accord qui vient d'être signé vendredi à Washington entre le Rwanda et la RDC n'est-il pas un mal nécessaire dans ce sens que, au lieu de continuer à assister, n'est-ce pas, à la souffrance des populations dans la partie Est, au lieu de continuer d'assister au fait que le sang du peuple est en train de couler presque tous les jours, est-ce qu'il ne fallait pas signer ces textes-là pour justement arrêter l'hémorragie?
Non, justement, Guy Maté, il faut lire les textes pour voir que les textes en lui-même portent énormément d'ambiguïté, tel que lorsque même quand on parle de paix, on peut se demander de quelle paix on est en train de parler. Félix hérite ces pays, il y avait plus de problèmes des FDLR où le gouvernement est obligé de les mobiliser. Au niveau du gouvernement, les recommandations qui étaient dans l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était que nous fassions les réformes nécessaires au niveau de l'armée, les réformes nécessaires au niveau des services, et que nous fassions le nécessaire pour qu'il y ait des réformes au niveau des finances ou la mise en œuvre de la décentralisation, parce que c'était question que l'autorité de l'État soit rétablie dans toutes ces entités-là. Et que, donc, la charge de la porosité, lutter contre la porosité des frontières, c'était au gouvernement. Aujourd'hui, si on est replongé dans ça, c'est la faute, la mauvaise gouvernance. Je venais de suivre ici de cette question. Mauvaise gouvernance, surtout de cette question sécuritaire et militaire. Imaginez le premier à accuser les FARDC. Qui avait pour ça de fait le M23, c'était Félix et son gouvernement et ses ministres.
Mais cette Maître Ferdinand Cambéré, cette question des réformes des forces de sécurité, justice, c'est une question qui a été héritée par, en fait, Félix Tshisekedi a hérité de cette question. C'est une réforme qui a commencé depuis plus de 20 ans, mais qui n'a jamais abouti, n'est-ce pas?
Vous ne pouvez pas dire ça, mais c'est Guy Maté. Avec le résultat qu'il y avait, en tout cas, le gouvernement congolais n'avait plus l'obligation de désarmer les FDLR. Je suis heureux d'être à face de maître Juvenal Mounoubo, qui lui était dans la commission défense et sécurité, je crois, au niveau du Parlement. Donc, il doit bien savoir qu'en réalité, ça, ce n'était plus une obligation pour le gouvernement. Parce que quand lui-même, il devient la question est complexe de désarmer ses FDLR, c'est parce que, effectivement, les discours de ceux qui nous gouvernent et les textes qu'ils signent, parce que quand ils signent quand même à Luanda, qui vont un plan harmonisé de mobiliser ces gens, ça c'est de un. Bon, c'est une autre façon de reconnaître tout cela. Pourquoi au temps de Kabila, ça ne revenait plus comme question, et que c'est aujourd'hui au temps de Félix que ça revient.
Maître Ferdinand Cambéré,
si dans faut... ça, ça devient encore une nébuleuse. Je termine par ça. Ça devient encore une nébuleuse avec cette animation et mobilisation de ce qu'on a appelé Ouazalène, où on a vu le régime, tout le monde s'est mobilisé derrière ça. Et que, et même en reconnaissant que les FDLR aussi pouvaient commencer aussi à s'infiltrer dans ces Ouazalendou, c'est devenu une nébuleuse dont on n'avait plus besoin.
S'il faut revenir sur ces textes qui viennent d'être signés à Washington, est-ce que le fait de signer cet accord à Washington ne reflète-t-il pas les, n'est-ce pas, les limites de l'Union africaine à pouvoir régler certains conflits au niveau africain?
Mais c'était par la volonté de Kinshasa. Parce que tout ce que nous suivons, développé soit par le président américain lui-même, qui dit que son, lui n'a appelé personne, c'est des gens de Kinshasa qui l'ont suivi pour lui proposer ce qu'il est là. Donc c'est le régime. Mais alors on peut se demander, pourquoi après l'adhésion à l'EAC, et qu'on a pris toutes les mesures, et qu'on devait malgré tout, à ce qu'il y ait une zone tampon pour que le M23 ne traverse pas la route Goma-Rutshuru. Où est passée cette zone tampon? Où faut passer, où est passée cette armée de l'EAC qui devait constituer une zone tampon? La guerre ne pouvait jamais, M23 ne pouvait jamais arriver là. Mais le discours qui a été, créé l'escalade de violence lorsque ou d'escalade belliqueuse, lorsque c'est le président lui-même qui pouvait dire « Je vais attaquer Kigali là-bas, est-ce qu'on avait besoin de ça ?» Pour une moindre escarmouche, ce régime-là, je dois le changer, mais c'est là où c'est accroché.
Merci. Merci, on a compris, on va vous donner la parole.
À la fin, voyez bien que même le terme agression n'est plus dans ce texte-là.
Les choses...
C'est maintenant, on parle de désengagement pour nous, mais il y a un sous-point pour les autres, c'est la levée des mesures de défense.
Voilà, les choses évoluent, on est dans un processus de normalisation. Et je pense que cela voudrait que certains concepts ne soient plus, n'est-ce pas, utilisés dans les discours des deux parties. Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle analyse vous faites de cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC?
Je crois que tout accord est d'abord le reflet du rapport de force. Et d'une certaine manière, l'accord de paix est le reflet du rapport de force à la fois militaire et diplomatique que chaque partie a su mobiliser. Et en conséquence, on a pratiquement mis dos à dos les deux pays. Dos à dos parce que on a responsabilisé le Congo via le CONOPS pour neutraliser le FDLR. Mais en même temps, on a demandé au Rwanda de désengager ses menaces de défense, de collaborer avec le Congo dans la traque du FDLR, même si pour le 1-23, il n'y a pas une responsabilité très claire du Rwanda, et qu'on invite le Congo à négocier avec le 1-23 Doha. Donc il y a cette approche qui a changé et qui n'est plus celle d'agresseur-victime, mais qui est une forme de partenariat proposé sur base d'un accès aux minerais par les États-Unis. Et donc cette dimension transactionnelle transpire grandement dans les accords, même si dans la mise en œuvre, on sait qu'il y aura beaucoup de difficultés à mettre en œuvre, notamment en termes d'échéance-temps. On a vu, on a un calendrier qui est très serré, avec des échéances qui vont à maximum à 120 jours. Vous prenez la mise en œuvre du CONOPS de toutes les phases, ça fait J plus 120. 30 jours pour mettre en place les mécanismes conjoints de sécurité, plus ou moins 30 à 60 jours pour neutraliser les FDLR, et puis maximum 120 jours pour harmoniser. Or, ces délais-là sont des délais très, très serrés. Quand on sait, par exemple, l'opération comme Amanileo, qui s'est menée avec le soutien d'ailleurs de la MONUSCO, a pris plus de 9 mois pour se réaliser. Et quand vous ajoutez au fait que, d'un point de vue logistique, l'accord dit clairement que ce sont les États partis qui prennent en charge les opérations. Ça veut dire qu'il n'y a pas, à ce stade, un soutien, même au niveau régional, pour accompagner ces processus-là. Donc on connaît les défis logistiques qui va se mettre en œuvre pour faire ces opérations. Et donc je crois que la mise en œuvre sera bien laborieuse. Et puis après, il y a des zones d'ombre, je vous l'ai rappelé sur vos plateaux plus d'une fois, il y a beaucoup de zones d'ombre pour lesquelles il faut beaucoup d'éclaircissement. Par exemple, le fait que l'on dise que l'État congolais doit arrêter le soutien d'État au FDLR, c'est une affirmation très grave que nous avons signée, que l'État reconnaît qu'il a apporté un soutien d'État au FDLR. Ensuite,
il y a une reconnaissance tacite.
Non, c'est clair, dans le rapport arrêté soutien financier et logistique au FDLR. Reconnaissance formelle de cette démarche-là, elle est très grave. Ensuite, le fait qu'on allonge non seulement au FDLR, mais à ce qu'on appelle les milices associées. L'accord parle de milices associées, mais qui sont les milices associées? Est-ce que milices associées, il s'agit de Wazalendo, alors que le Parlement a voté certaines dispositions avec les RAD pour essayer de donner une forme de légalité à ces corps de réserve? Comment demain ces corps de réserve, pour lesquels une loi a même été proposée, pourront être transformés en milices associées? Ils ont été mobilisés fortement avec un discours, une rhétorique anti-agression et forcément des attentes de récompenses politiques. Et donc demain, désarmer cette résistance que tout le monde a saluée peut être également un problème. Et puis peut-être un élément, un dernier élément, c'est qu'il y a, l'accord n'est qu'un prélude à ce qui va se faire dans 90 jours, à savoir un cadre d'intégration régionale. Où l'on parlera économie. Donc, dans les 90 jours, ça veut dire plus ou moins septembre-octobre. Et donc là, il y aura un deuxième cadre où on va parler, cette fois-ci, économie, avec des possibilités de partenariat entre les RDC et le Rwanda pour garantir l'accès aux minerais stratégiques aux États-Unis. Et là encore, il y a énormément de besoins de clarification sur ces cadres économiques et sur les enjeux qui sont derrière.
Et donc, beaucoup de non-dits.
Il y a encore beaucoup de non-dits, il y a encore beaucoup d'éléments à compléter. L'accord parle d'autres accords à compléter, notamment Doha, notamment les cadres économiques à mettre en œuvre. Donc c'est un point de départ et non pas un point d'arrivée.
Dans cet accord, la RDC s'engage à assurer l'intégration conditionnelle des forces. Alors qu'on se rappelle qu'il y a quelques mois, le Parlement congolais avait, n'est-ce pas, recommandé... Avait voté certaines recommandations, notamment l'interdiction formelle d'intégrer les forces rebelles dans les forces de sécurité de la RDC. Alors, que pensez-vous à ceux qui pensent qu'il y a certaines concessions qui ont été faites par la RDC sous contrainte?
Je l'ai dit au début, j'ai dit que les accords sont les produits des rapports de force. Donc, il y avait un rapport de force militaire qui nous a imposé à reculer sur certaines positions. Déjà, le fait d'accepter de négocier avec les 1-23 est un recul quand vous prenez la flexibilité que nous avions en 2024. Donc, il y a des positions qui ont été revues à la baisse, que ce soit le retrait préalable du 1-23, plutôt de l'armée rwandaise, on n'en parle plus, alors que c'était une posture du gouvernement. Et donc, nous avons négocié en revenant sur certaines lignes qui étaient des lignes fermes du gouvernement, comme la non-intégration des rebelles au sein de l'armée. Et ça aussi, c'est un point à éclairer, même si on donne des éléments de vetting. Mais ces éléments de vetting doivent être plus ou moins clarifiés sur quel point on va finalement avancer pour avoir une armée plus ou moins intégrée. On se rappelle que lorsqu'on a intégré, même si on parle de cas individuels, lorsqu'on a intégré dans le passé les éléments des RCD, il y avait une forme d'accord tacite pour que ces troupes ne soient pas bougées des régions de l'Est, notamment à Rutshuru et Masisi. L'honorable Mounobo connaît bien les fameuses brigades qui n'ont jamais bougé de ces régions-là au prétexte de protéger une minorité et ont été source d'instabilité. Est-ce que cette fois-ci, il y a des dispositions pour qu'on n'ait pas des brigades qui restent implantées sur une région et qui ne changent pas de province au prétexte de protéger une communauté? Ce sont des éléments du passé qu'on a connus et qui ont montré les limites dans cette approche de brassage ou de mixage.
Et le fait que cet accord soit signé sous l'égide des États-Unis ne lui confère-t-il pas les atouts pouvant lui permettre d'être mis en œuvre avec beaucoup de facilité?
Les États-Unis ont certes le pouvoir, le levier d'imposer. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que l'accord a pu être signé. Si Luanda a capoté, c'est parce que l'Angola a manqué ce levier nécessaire à imposer à ses chefs d'État de se réunir à Luanda. Le Qatar l'a bien fait parce qu'il avait le levier sur le Rwanda. Les États-Unis ont la capacité d'imposer aux parties de signer. Mais est-ce cette bonne foi ou c'est simplement malgré eux parce qu'il y a la volonté du leadership américain? La mise en œuvre sera donc laborieuse, s'il n'y a pas une volonté des États eux-mêmes et que ça se limite à une pression américaine. Deuxièmement, c'est ce qui motive plus grandement.
On se rappelle que ce n'est pas le premier accord qui est signé sous l'égide des États-Unis. Hein. Oui. On se rappelle ces fameux accords de Camp David aux États-Unis entre l'autorité palestinienne à travers Yasser Arafat et l'ex-premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui a été signé en 93. Et où en est-on aujourd'hui? Le Moyen-Orient, c'est devenu presque un bazar. Gaza, c'est un chaos total. Et donc, le fait que les États-Unis puissent être garants d'un accord ne signifie pas que...
Ce n'est pas suffisant. Voilà. Récemment, l'Ukraine a signé avec les États-Unis le même modèle de contrat que nous sommes en train de signer autour des minerais. Ça n'a pas empêché la guerre avec la Russie de continuer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dès l'instant où les intérêts économiques seront, les contrats économiques seront signés, et que les contrats miniers seront signés, si le volet paix n'est pas stabilisé, est-ce qu'on aura le même degré d'engagement des États-Unis? C'est une question qu'il faut se poser, parce que l'Ukraine a signé le 30 avril, nous sommes au mois de juillet, il y a encore la guerre qui continue. Donc il faut que les dirigeants congolais soient très lucides sur ce qu'ils veulent et ne nullement compter sur la volonté américaine.
Alors, face à l'enlisement, comme l'a dit Maître Jimenel Mounoubo, face à l'impasse devant laquelle on s'est trouvé, est-ce qu'on n'était pas obligé de signer cet accord? Est-ce que cet accord n'est pas un mal nécessaire pour essayer d'arrêter l'hémorragie, pour essayer d'apporter une paix, même si c'est une paix, n'est-ce pas, relative, mais au moins que les populations de l'Est puissent sentir qu'il y a quelque chose qui a changé?
La véritable paix, nous l'obtiendrons le jour où nous serons capables d'imposer notre volonté. C'est-à-dire que nous ferons les réformes sécuritaires qu'il faut pour disposer d'une armée à même d'imposer son rapport de force. Cette paix négociée, est, je dirais, est une paix non durable. Déjà du fait que la paix elle-même ne répond pas à la complexité de la question de la guerre. Nous sommes en train de présenter la guerre sous un prisme, sous le prisme de l'agression extérieure. Mais il y a énormément des questions de gouvernance interne qui interviennent dans la logique des conflits, dans la limite des conflits chez nous. On peut parler de questions foncières, des questions identitaires. Et donc la démarche de Washington n'embrasse pas toute la complexité des conflits. Et donc il y a des éléments de dynamiques des conflits qui ne sont pas pris en charge. Et donc une telle paix ne peut être que transitoire, si je peux le dire ainsi. Et c'est au Congo de profiter du temps que cela lui donne pour mieux se structurer militairement et pouvoir être à même d'imposer un rapport de force favorable.
Merci. On va écouter les auditeurs qui veulent donner leur point de vue. Honorable Juvenal Mounoubo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani.
C'est Salcel Boyemba depuis la ville de Kisangani. Le document original contenant les signatures et parties de cet accord n'est pas publié, ce qui fait défaut pour les analyses précises. Toutefois, la RDC a déjà signé plusieurs accords dans le passé, mais non appliqués. Il est inadmissible qu'un pays qui a atteint 65 ans d'indépendance dépende des autres pour imposer sa souveraineté. Un accord signé au nom du peuple congolais, mais sa représentation nationale n'est pas au courant. À mon humble avis, cet accord n'amènera ni la paix, moins encore le développement socio-économique de la nation, mais c'est pour la survie des régimes actuels.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Bon, je pense que honnêtement, d'abord, il faut reconnaître la situation dans laquelle on était. Je l'ai dit, on était dans une situation pas facile, hein, où on était dans une situation où on ne voyait pas les bouts du tunnel si facilement, où les affrontements continuaient et où les lignes de front ne bougeaient pas sensiblement. Et donc, il faut féliciter l'effort de la diplomatie congolaise. Donc, il faut voir les travaux au niveau du ministère des Affaires étrangères, Madame Pérez, il faut voir les travaux du président Tshisekedi. D'une manière objective, il faut saluer ça. Alors, mais il faut aussi considérer que les chemins parcourus, nous venons de loin en fait. Notre armée, c'était une armée vraiment à reconstruire. Tout comme l'État congolais, c'était un État à refonder. Et donc, on ne pouvait pas s'attendre à une victoire militaire, étant donné qu'il y avait encore un grand travail à faire. Et moi, je crois que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Mais je suis d'accord avec Christian Moleka que même si on va calmer les tensions entre Kigali et Kinshasa, même si à Doha, on va chercher un accord avec la M23, mais les problèmes, ce n'est pas tout comme problème qu'on a au Congo. Il y a beaucoup de problèmes, évidemment, qui touchent à la gouvernance aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Raison pour laquelle, moi, d'un point de vue personnel, je soutiens l'initiative des évêques, plutôt que ça va dans le sens d'asseoir la cohésion interne. Mais je crois que ce qui doit suivre, d'abord, après cet accord de Washington, c'est Doha. Il faudrait bien qu'on sache comment les choses se déroulent à Doha. Et je crois que, et pour Washington et pour Doha, les députés ont le droit de connaître ce qui se passe. C'était l'article 214, d'ailleurs, de la Constitution, que les accords de paix, pour que ça soit ratifié, il faut que ça passe au Parlement. Il y a un certain nombre d'accords, il y a un nombre de traités qui doivent passer impérativement au Parlement. Donc je suis d'accord avec l'auditeur quand il suggère, il recommande aux députés de se prononcer là-dessus, d'analyser les textes. Alors, cet accord...
Mais l'accord a été, honorable Mounoubo, l'accord de Washington a été signé sans que, qu'il ne puisse passer, n'est-ce pas, par les parlements. Donc, cela veut dire qu'on est dans cette logique-là. Hein. Même celui des Doha, s'il est signé demain, on ne va pas passer par les parlements. Apparemment, on ignore les parlements.
Alors, l'étape du parlement, pour les cas précis, c'est après la signature. Parce qu'après la signature, il y a la ratification. Et quand on lit la Constitution, on énumère, il y a une liste des accords, les accords de paix, de commerce et tout, ils doivent être, pour être appliqués, ils doivent être ratifiés par le Parlement. Je crois que c'est l'article 214. Donc jusqu'à là, on n'est pas vraiment en retard par rapport à cette exigence. Mais il revient au Parlement de suivre les processus de Doha, hein, comment ça se déroule et comment ça va se conclure. Parce que c'est ce processus qui nous aidera à savoir comment on va mettre fin à l'existence du M23. Parce que la présence du M23, c'est donc une situation qui n'est pas, d'un point de vue juridique, ce n'est pas une situation normale d'un État. La situation normale d'un État, c'est que Goma soit relié à Kinshasa. Alors, les revendications du M23 seront examinées à Doha, et il faut que le parlementaire suive. Voilà. Donc, les parlements peuvent toujours se rattraper à ce stade-là. Je ne pense pas qu'ils soient en retard.
Et vous pensez que le Parlement peut apporter des modifications pour un texte qui a déjà été signé?
Vous savez que ce texte, ce n'est pas une Bible. Parce que c'est prévu même dans les dispositions finales que ce texte soit amendé. Et l'une des parties peut même se retirer de ce texte. Donc tout dépend. Alors si c'est le gouvernement du Congo, par exemple, qui estime qu'il y a tel point, qui ne peuvent pas passer, si c'est sur base des recommandations des parlementaires, on peut revenir sur le texte.
Merci.
On a prévu cette disposition, on n'est pas lié pour toujours à cet accord.
Merci.
Une partie peut demander à se retirer, mais pour ça, il doit adresser une sorte de préavis par écrit de 60 jours.
Merci, Maître Ferdinand Cambéré. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, sud Kivu.
Bonsoir Radio Okapi, moi c'est Fikiri Chumba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Cet accord n'apporte rien de nouveau par rapport aux accords précédents. Nous avons déjà connu plusieurs accords, mais aucun accord n'a apporté la paix qui est devenue une denrée rare, 3 décennies dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a jamais été un bon élève en matière du respect des engagements, encore que cet accord n'est pas contraignant. Je partage à 100% la position du docteur Denis Mukwege. Tout observateur averti doit rester critique vis-à-vis de cet accord, qui ne tient même pas compte de la souffrance du peuple. Pour moi, cet accord peut nous apporter un semblant de paix pour un petit moment, mais à la longue, on va retourner à la case de départ.
Maître Ferdinand Cambéré.
Je salue sa réaction, je crois que c'est même dans l'opinion la même réaction, parce qu'en fait, la vérité c'est laquelle? C'est qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et la justice, sans paix, c'est une paix imposée. C'est une paix sans dignité, comme on l'a dit là-bas. Tout le monde, je crois, l'a dit, Lumumba l'avait dit dans son discours. Et Christian Moleka lui-même est revenu là-dessus en parlant de vetting. pour ce qui concerne la justice transitionnelle. Cet accord-là, en réalité, moi, la question que je continue à me poser, pour les pouvoirs qui est en train de se vanter de ça, j'ai suivi le résumé de la ministre des Affaires étrangères qui demande à ce que cet accord soit mis en œuvre dans toutes ses dispositions. Comment ils prennent l'accord cadre d'Addis Abeba, même si je prends seulement l'aspect de la coopération dans la région des Grands Lacs, intégration pour la région des Grands Lacs. Comment ils considèrent qu'en signant cet accord, pour eux, l'accord cadre d'Addis Abeba n'a plus de valeur, déjà annulé? Parce qu'au moins déjà cet accord ne permettait pas au Rwanda de remettre ses armées sur le sol congolais. L'accord cadre d'Addis Abeba ne permettait pas aux troupes ougandaises de venir faire les manœuvres militaires dans les territoires de Beni. Et depuis qu'ils sont là, est-ce que les massacres ont cessé? Est-ce que les IDF ont été neutralisés? Pas du tout. Au contraire, que ce soit à Beni, à Mouvéo et à Moutouri, pas du tout. Je crois le plus raisonnable serait que, comme le dit l'honorable Mounoubo, s'ils acceptent, par exemple, de les soumettre à un processus du Parlement, j'espère qu'il ne sera pas comme celui-là qui s'est autorisé à dire on lève le Sénat, on lève l'immunité de l'ancien président de la République qui s'attachait à qu'on est en train de violer la Constitution. Et j'espère que le gouvernement doit aussi montrer sa volonté de rester modeste et de cesser de continuer à appeler tout le monde rebelle, tout le monde complice, alors que les mots agression et même, comme vous l'avez dit ici, ils ont fait évoluer les concepts dans cet accord ici. Le Rwanda n'est plus un pays agresseur, c'est maintenant un pays qui est en défensive et à qui on autorise de considérer les troupes qui sont là comme une défense.
Maître Ferdinand Kambere, il y a cette réflexion de l'honorable prince Kiangi qui a moi mis depuis la ville de Goma au Nord Kivu, qui dit, après la signature, l'État n'est plus au débat pour ou contre sur le contenu de l'accord de Washington. Soyons tout simplement respectueux de nos engagements en tant qu'État, parce que nous l'avons signé sans aucune contrainte, en âme et conscience, et avec des objectifs précis. Alors, assumons-nous et soyons conséquents. Évitons les jérémiades des justifications en dehors du contenu de l'accord. Qu'aucun Congolais ne soit un obstacle à sa mise en œuvre ou le motif éventuel de son échec. Passons à l'essentiel qui est sa mise en œuvre afin de donner au gouvernement congolais la chance de nous retrouver vite la paix promise. Votre réaction?
Mais la réaction, celui-là, je crois que c'est lui le porteur de la vision du gouvernement ou du régime qui s'était dit qu'il veut imposer une paix alors qu'il est comme une partie sous la soumission des États-Unis. Donc ça devient comme une autorité morale, et parce que les États-Unis, c'est eux qui ont été là comme arbitre, ils ont dit, et puis on va faire la pression à tout le monde. Il n'y a pas de paix sous pression. Ce qui est normal, c'est un accord qui doit s'exécuter sur notre peuple. Ce peuple a des droits sur les ressources naturelles. Nous avons une constitution, nous avons un code minier. Il y a des droits fondamentaux qu'on ne peut pas écraser parce que tout simplement, il y a un accord. On doit pouvoir l'examiner. Non seulement par le Parlement, mais par tout le peuple. Parce qu'après le Parlement, c'est le référendum qui est recommandé pour les accords de paix, les accords de commerce.
Merci. Christian Moneka, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis le Burundi.
Jacques Biaounda Biamès, depuis Bujumbura au Burundi. Ce nouvel accord signé le 27 juin dernier marque un point de départ promettant pour la paix entre la RDC et le Rwanda. La grande préoccupation du peuple actuellement est celle de savoir la différence qui serait entre ce dernier et les différents autres accords, tels que l'accord de Lusaka de 1999, l'accord cadre d'Addis Abeba et beaucoup d'autres déjà signés avec le Rwanda, car en suivant les propos du ministre rwandais des Affaires étrangères, dans Jeune Afrique, on a l'impression que la RDC et le Rwanda n'ont pas la même compréhension sur cet accord. De ces faits, rien n'est garanti sa matérialisation.
C'est à mon cas, cette question de perception.
Effectivement, on a suivi d'ailleurs même les deux ministres des Affaires étrangères côte à côte donner une lecture presque triviale de la signature. Le Rwanda met l'accent sur le fait que le CONOPS a priorité sur le désengagement, alors que le Congo semble inverser le fait en parlant presque de séquençage entre les deux opérations. Et donc il y a un problème d'interprétation des parties qui va poser problème dans la mise en œuvre. Je suis également d'accord avec lui sur le fait qu'il n'y a pas de grande différence entre les accords qui ont été signés à Washington et ce qui s'est fait dans le passé. Les principes restent les mêmes. Le Rwanda a toujours fondé son action sur la justification des FDLR, la traque des FDLR. Depuis Amanileo, toutes les opérations militaires tournent autour des FDLR. Et donc nous continuons 30 ans après à courir derrière le même justificatif. Et du côté congolais, ça a toujours été agression, intégrité territoriale, donc rien n'a changé, à part la particularité de l'aspect minier porté par les États-Unis, qui est la carotte que l'on met sur la table en disant, voilà, faites les business plutôt que la guerre. Donc ce n'est pas très différent de ce qui était dans le passé, et le souci restera donc la mise en œuvre et l'interprétation des parties.
Cet accord pourra-t-il aider à restaurer la paix et la stabilité en RDC? Juvenal Mounoubo, vous êtes avocat, cadre de l'Union Sacrée de la Nation, vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est. Est-ce que vous pensez que cet accord pourrait aider à restaurer la paix et la stabilité dans la partie Est de la RDC?
Oui, M. Guy, je garde un optimisme. Je pense que ça peut nous aider à amener la paix, mais il faut pour cela afficher la bonne foi, hein. Il faut travailler. Et je pense aussi que les États-Unis se sont portés garant, quoi. C'est une sorte de cautionnement moral. Et c'est même un pari pour eux. Un pari risqué, je peux même le dire comme ça. Parce que la question, elle est complexe. Comme la question d'FDLR, on le disait tantôt, les troupes rwandaises qui doivent se retirer, on parle de désengagement. Alors, ce ne sont pas des questions si faciles que ça. Et donc, les États-Unis ont mis en avant leur honneur. Mais on sait aussi que c'est une grande puissance. C'est la première fois qu'une grande puissance comme les États-Unis se mette au devant de la scène. Et donc, pour moi, je considère ça comme une opportunité. On ne peut pas chanter une victoire maintenant là, mais il faut féliciter les efforts. En tout cas, tout esprit objectif devait féliciter le président Tshisekedi et la diplomatie congolaise. Mais il y a un grand travail à faire. Il faut attendre la première réunion de ces mécanismes conjoints de coordination de suivi de sécurité, JSM, qui doit se réunir dans les 30 jours. Il faut attendre et voir comment les processus de Doha vont évoluer, parce que tout est lié. Ici, c'est pour calmer les tensions entre Kinshasa et Kigali, mais la question M23, c'est au niveau de Doha qu'on doit avoir des réponses. Il y a la question minière aussi. Cette question minière, comment ça va se passer? Je me rappelle, il y a eu les certificats Kiergel sur et l'approvisionnement responsable des minerais dans la région. Et ici, on parle d'une chaîne d'approvisionnement responsable aussi. Comment ça va se passer? Est-ce que les États-Unis vont utiliser quel levier pour que tout soit clean finalement? Merci. Alors voilà, donc, il y a encore beaucoup de questions pour lesquelles la prudence est de mise. Les parlementaires doivent suivre, la société civile doit suivre aussi. Mais la question congolaise ne se limite pas seulement qu'à la question M23 ou à la question du Rwanda. Alors, tous les soucis qu'on peut avoir en termes de gouvernance et tout, pour moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose si les gens se réunissaient pour discuter. Alors, les dialogues, le but d'un dialogue, ce n'est pas pour se partager le pouvoir. Le but d'un dialogue, ce n'est pas pour affaiblir les pouvoirs qui existent. Le but d'un dialogue, c'est de voir dans quelle mesure on peut rebooster les réformes, relancer les réformes, préparer par exemple les prochaines élections, comment opérer les réformes électorales, les questions foncières dont a parlé Christian tantôt, Boleka. Et donc, il y a moyen, et c'est la raison pour laquelle il faut prêter l'oreille aussi aux évêques.
Merci.
Là, ils lancent les pactes sociaux. Je crois que c'est une contribution aussi, si l'on veut arriver à une paix durable.
Merci.
Au Congo et dans la région de Grand Lac.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi. Je considère ça comme votre conclusion. Ferdinand Kambere, avocat, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec cet accord qui vient d'être signé à Washington, et qu'est-ce que vous proposerez pour qu'on sorte de cette impasse devant laquelle on se trouve par rapport à la situation de l'Est du pays?
C'est que d'abord, le gouvernement doit cesser d'utiliser cette crise-là et l'instrumentaliser pour réprimer les opposants. Ils ont accepté eux-mêmes, ils ont signé, ils ont fait évoluer des concepts comme concept de l'agression, c'est le plus dans cet accord, comme le concept de la rébellion. L'AFC M23 se considérait comme comment ils ont des parties prenantes au pourparler. Il faut que le gouvernement évolue en même temps au niveau interne, parce qu'il y a des questions essentielles de mauvaise gouvernance, de politique, de citation, de discours de citation à la haine et cette histoire de cimentalisation tribale ou l'autre comme ça à un ancien président, son identité. Il faut qu'on cesse pour que le climat, si réellement il va accepter ce point de vue proposé par M. Juvenal, où nécessairement on rentrera sous la table. Comme ils sont sous la table, s'il faut considérer ça comme l'avancée, c'est dans le sens où tout ce qu'ils disaient sur le Rwanda, ils ne le disent plus. Tout ce qu'ils disaient sur l'AFC, M23, ils ne le disent plus. Mais pourquoi aujourd'hui vouloir continuer à vilipender l'ancien président de la République parce que simplement il se trouve à Goma? Goma, c'est une partie du territoire congolais. Il y a la population qui attend une réponse efficace de paix durable. Et alors, il ne faut pas que les régimes ils croient qu'ils peuvent instrumentaliser la crise et s'apprendre à ceux qui ne pensent pas de la même manière que ceux qui n'ont pas la même approche que le régime sur la question de la sécurité et des paix à l'Est.
Merci. Je considère ça aussi comme votre conclusion. Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, parce que cet accord ne règle pas tous les problèmes, et ça peut être quoi son mérite?
Son mérite, c'est d'abord de geler le front, de réduire les risques d'une conflagration, parce qu'on était dans une logique de conflagration régionale, éventuellement de créer les conditions d'accalmie entre le Congo et le Rwanda, et probablement une solution politique avec les 1-23, mais il ne reste pas moins qu'il faut trouver des réponses aux questions de gouvernance interne, de trouver des réponses aux réformes à mettre en œuvre dans l'appareil sécuritaire et même dans les questions comme les foncières identitaires, mais également de mettre sur pied un appareil d'État capable de garantir le rapport de force nécessaire pour avoir une paix durable. Et peut-être ce qu'il faudra ajouter, là je parle davantage comme société civile, c'est qu'il faut garantir la transparence des processus de paix. Il faudrait que le gouvernement ramène l'accord au niveau du Parlement pour qu'il soit discuté, que les zones d'ombre soient clarifiées, et que les engagements pris soient plus ou moins expliqués aux Congolais, notamment les questions minières. Et ce n'est que comme ça qu'on peut avoir une adhésion populaire, je dirais, des qualités, un soutien sans faille vis-à-vis des décideurs.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Juvenal Munubo Mubi, Maître Ferdinand Kambere et Christian Moleka. Merci aussi à Benjamin Mudumbi qui a réalisé cette émission et à Billy Landry Betou et à Alain Ngoï qui a été à la technique, à la présentation. Guy Maté, merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.